C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
1932, une année de l'entre-deux-guerres qui ne sort pas spécialement du lot dans les livres d'histoire. On y trouve bien sûr des événements marquants dans la politique européenne, un début de grève de la faim pour Gandhi, des guerres en Amérique du Sud et bien d'autres faits marquants qui font l'histoire, l'histoire avec un grand I. En parlant de guerre, justement, il y en a une toute particulière qui est déclenchée par l'Australie le 2 novembre 1932, contre qui le pays entre-t-il en guerre alors ? Un voisin, pas du tout, il s'agit de faire la guerre à des émeus. Pour tout savoir sur la guerre des émeus menée par l'Australie, voilà la fine équipe de l'Histoire avec un grand I. Bonjour Karine Rinoda.
Bonjour.
Bonjour Alexandre Belin.
Bien le bonjour.
Bonjour Julien Marel.
Bonjour, bonjour à tous.
L'Histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, cette guerre des émeus, pour démarrer, on peut parler du personnage principal, qui est le ministre de la Défense australien, Sir George Pearce, et qui déclenche cette guerre. Pourquoi donc ?
Blessé dans son orgueil.
Blessé dans son orgueil, donc c'est vraiment une guerre d'ego.
C'est complètement une guerre d'ego. En plus d'être une guerre d'oiseaux, c'est une guerre d'ego. John Pearce déteste les émeus. Ces oiseaux formidables au pelage impeccable, qui parcourent les plaines à vive allure.
C'est beau, un émeu.
C'est beau un émeu.
C'est vraiment beau un émeu. Vous avez déjà vu un...
C'est beau. Hein.
C'est beau.
C'est,
hein.
Et c'est pas pour rien que ça porte ce nom. C'est émouvant.
Oui.
Ça émeut un émeu.
Oui.
Lorsqu'on regarde un émeu, on est ému. Et John Pearce, donc blessé dans son orgueil...
Qui avait, il faut le dire, un petit problème avec les émotions.
Oui. Aussi, oui. C'était pas un grand... C'est gardé... Grosse carapace.
Mmh. Non, c'est ça. Grosse
carapace.
Donc il s'est fait renverser par un émeu, en rentrant chez lui un jour où il était en costume du ministère de la Défense de l'Australie et son costume est taché et boué par un émeu. Et il rentre chez lui, il
faut dire que c'est un grand classique. C'est pas rare en Australie, et encore aujourd'hui, de se faire renverser par un émeu. Les émeus sont des oiseaux qui se déplacent en groupe et toujours à vive allure.
C'est un peu les trottinettes électriques de l'époque.
Eh bien, c'est intéressant ce que vous dites, Karine. On va pas rentrer dans de la politique.
Non.
On est historien, nous on est là pour parler de ce qui est passé. Effectivement, le parallèle est intéressant.
Juste pour faire une aparté, il y a une marque de trottinette électrique en Australie qui s'appelle EME.
Oui.
C'est E. Me.
Ime.
Ime. Mais.
C'est un peu ringard déjà.
Non, c'est déjà un peu ringard, mais. Bon, voilà, ça existe. Mais bref, fin de la parenthèse. Je vous laisse continuer, Alexandre.
Et donc, c'est pas rare, c'est fréquent de se faire renverser par des émeus faut avoir cette image d'émeus qui traversent des routes, des villages entiers, en courant à vive allure, troupeaux.
On parle de combien d'émeus dans ces situations ?
C'est une quinzaine d'émeus. Mais c'est grand.
C'est des gros oiseaux.
C'est des gros oiseaux qui se déplacent sur deux pattes.
Des oiseaux magnifiques.
Magnifiques.
Ah, ils sont beaux.
Ils sont vraiment très très beaux. Malheureusement, Pearce va se faire renverser en rentrant du travail. Et donc, effectivement, son costume est complètement taché.
Mais il n'est même pas blessé, c'est ça qui m'énerve.
Il est
blessé, c'est le costume. Il est blessé dans son orgueil, mais c'est il ne suit pas de blessure physique.
C'est devant les caméras.
Oui.
C'est devant les caméras donc, qui tombent renversées par une troupe d'émeus. Vous disiez que c'était assez courant. Les émeus en Australie, toujours aujourd'hui, il y en a partout.
Oui,
il y en a partout, mais on a appris à vivre avec. À l'époque, vous alliez en Australie, il y avait une file pour les voitures, une file pour les émeus. Enfin, c'était quand même... L'homme s'est organisé autour de l'animal. Hein.
Et tout ça a été perdu à cause de la guerre des émeus.
Mais ouais, voilà, et ça, c'est des choses qu'on... John Pearce a fait régresser la société australienne à ce niveau-là, c'est évident pour moi.
Donc il y avait une vraie et belle cohabitation entre l'humain et l'émeu. Comment on fait, d'un point de vue juridique, désolé pour le côté très spécifique de ma question, en Australie pour déclarer la guerre à des oiseaux ? Est-ce que c'est simplement possible ou est-ce que John Pearce doit un peu tergiverser ?
L'Australie n'en est pas à son coup d'essai lorsqu'il s'agit de déclarer la guerre à des animaux. L'Australie a déjà tenté de déclarer la guerre à des araignées et à des requins. Finalement, la constitution australienne a été adaptée dans ce sens où le règne animal peut être considéré comme un territoire à qui on peut déclarer la guerre au même titre que, qu'un pays.
Ça paraît fou de notre point de vue, mais je ne sais pas si vous avez déjà été en Australie, c'est quand même un pays où les animaux sont à majorité très dangereux. Et donc c'est pas étonnant qu'on se retrouve avec des lois de la sorte dans un pays comme qui a une faune comme celle-là.
Exactement, et là ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce qui détonne, c'est que les émeus par rapport aux requins et aux araignées font quand même peu de morts.
Et ils sont sympathiques, ils sont beaux.
Ils sont beaux. Et c'est vrai que, finalement...
Ils ont tué personne jusque-là.
Non, la seule chose qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir porté atteinte à l'ego.
De John Pierce.
Parce qu'un émeu de base, c'est très pacifique.
Oh oui.
Même entre eux.
C'est pacifique, c'est sympathique, c'est... Vous pouvez approcher un émeu et le caresser. Hein. Il va se laisser faire, il va vous rendre l'appareil.
Ah ouais. Tous les zoologistes le disent.
Mais oui, c'est bien connu parmi les ornithologues. C'est un des oiseaux les plus sympathiques au monde, derrière le macareux.
Plus sympathique au monde, et pourtant, on lui déclare la guerre, donc en 1932. Comment se déroule cette guerre?
Donc, John Pierce convoque l'Assemblée le 17 février 1932. L'Assemblée australienne se réunit et... John Pierce, faisant partie bien sûr de la majorité à l'Assemblée, il a gain de cause et le lendemain, la guerre est actée. Tout les Australiens sont en guerre contre les émeus.
Une grosse spécificité de cette guerre, c'est que, on le rappelle, les émeus sont très sympathiques. La population civile ne voit pas ça d'un bon œil. On s'est acclimaté à cette cohabitation avec les émeus. On les aime beaucoup. Cette déclaration de guerre de la part du gouvernement, elle arrive comme un cheveu sur la soupe et on ne comprend pas bien et on s'y oppose surtout. Et de là naît, en plus d'une guerre contre les émeus, une guerre civile interne en Australie.
Oui, parce que du coup, les deux arrivent pile en même temps. Est-ce qu'on peut rappeler un peu le contexte historique et la relation qu'il y a entre le gouvernement et le peuple australien à ce moment donné? C'était déjà un petit peu chaud.
On est en fin de mandat pour le parti de John Pierce et donc un parti de droite voire d'ultra droite le peuple s'oppose, commence à s'opposer à ce parti. Le mandat a été teinté d'événements malheureux et donc le parti n'a pas beaucoup la cote et ne sera certainement pas reconduit, et donc c'est aussi une manière d'apposer avec force son autorité.
On parlait de l'ego de John Pierce. Faut savoir que John Pierce, à la base, si on revient un peu sur le personnage, c'est quelqu'un de avant de prendre son mandat en tant que ministre de la Défense, c'est quelqu'un de très sympathique, pas du tout aigri, un homme charmant au demeurant. Mais effectivement, ce mandat terrible, on l'appellera aujourd'hui le ridiculous government, le gouvernement ridicule, après 6 ans de mandat en Australie, il s'est passé des choses, ils n'ont pas su gérer, vraiment. À chaque fois, c'était la moindre petite problématique du pays, la réponse du gouvernement était ridicule. Et donc de déconvenu en déconvenu, John Pierce et tout le gouvernement australien devient aigri et ça attire les foudres de la population.
Pour vous dire, il y a eu une loi qui a interdit de respirer en 1930 parce que quelqu'un avait respiré trop fort, ça avait agacé un secrétaire de la défense et voilà, ils ont passé une loi, il est interdit de respirer en Australie, mais c'est ridicule. Enfin, donc voilà, donc la guerre commence, on bannit les émeus. Alors forcément, on ferme toutes les voies de circulation réservées aux émeus dans les villes et dans les campagnes. Et on commence surtout à chasser l'animal. Tout le peuple, y a beaucoup d'émeus en Australie. Tout le peuple australien est réquisitionné, enfin en tout cas tout le peuple australien en âge de se battre. Et c'est là qu'on introduit le personnage de Peter Emmanuel Mark, qui était donc un ornithorynque reconnu.
Un ornithorynque ?
Oui, qui est le rang, qui est un rang distinctif parmi les ornithologues.
Je ne savais pas.
Professeur en ornithologie et maître de conférence en ornithologie.
Professeur émérite.
Un ornithorynque.
Un ornithorynque, j'ignorais.
Tout à fait.
J'ignorais.
Je suis passionné d'oiseaux.
C'est vrai.
Alors, avant d'attaquer cette facette de l'histoire, petite pause musicale avec Michel Fugain, on fait comme l'oiseau.
Seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe. Dit, comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Chanter ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace. Dit, comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu.
C'est comme l'oiseau de Michel Fugain et nous revoilà dans l'histoire avec un grand I. On s'est quitté juste au moment stratégique où nous étions en train d'introduire le personnage central dans cette histoire de Peter Emmanuel Marc. Est-ce qu'on peut en dire plus ?
Donc Peter Emmanuel Marc est ornithorynque, donc maître de conférences agréé en ornithologie. Il adore les émeutes, comme l'extrême majorité de la population australienne. Et Peter Emmanuel Marc va fonder la société organisée unanime pour les émeutes.
La soupe.
L'acronyme, c'est soupe.
Oui, alors je préfère effectivement, l'acronyme en français c'est soupe, mais je préfère dire société organisatrice unanime pour les émeutes.
Moi j'aime bien soupe.
Oui. Et donc, Pierre-Emmanuel Marc et sa société vont s'opposer au gouvernement en place et il sera le porte-parole et la figure majeure de l'opposition et de cette guerre civile.
De la guerre civile. Est-ce que la guerre civile est déclarée immédiatement ou est-ce qu'il faut attendre quelques temps avant vraiment que la population s'organise et vienne contrer la guerre des émeutes ?
C'est assez rapide. Vous parliez, Julien, du 17 février 1932, déclaration de guerre du gouvernement australien contre les émeutes. le 20 février 1932, la soupe est déjà créée et l'état d'urgence et la guerre civile est instauré en Australie. Les gens, le peuple n'a plus le droit, est assigné à résidence au-delà de 16 heures. Voilà. On a le droit de se déplacer entre midi et 16 heures, mais avec de manière très très régulée. Et vraiment un climat très tendu entre l'armée et les civils.
Très tendu, et c'est assez logique parce que forcément il y a beaucoup de déserteurs. Les gens étaient envoyés au front et lorsqu'ils braquaient leur fusil sur l'animal, qui contemplaient sa beauté, ils étaient émus et forcément ils se rebellaient contre l'autorité de l'armée. Et donc de plus en plus de gens vont changer de camp, rejoindre les rangs de la société organisée unanime pour les émeutes.
Vous pouvez dire la soupe. Hein.
C'est la soupe, c'est pratique, c'est facile, c'est rigolo.
Je trouve que ça tourne en ridicule une cause aussi noble.
Bon.
Et puis en plus, en anglais, ça n'a pas de sens.
La tatillon.
Profitons de parler français.
Et donc, forcément, à ce moment-là, la tension est créée. Donc oui, effectivement, comme le rappelait Alexandre, ça ne prend pas beaucoup de temps avant que la tension, que la tension explose.
Quelle est la place que va prendre notre Pierre-Emmanuel Marc dans ce mouvement et comment s'organise
Peter,
et comment justement il va organiser ce mouvement? Est-ce qu'il y a des stocks d'armes qui sont constitués? Quelles sont les actions menées contre le gouvernement et quelle est la place des émeutes dans tout ça?
Pierre-Emmanuel Marc a une idée brillante.
Peter, pardon,
j'ai un peu de mal avec ça. Pierre-Emmanuel Marc a une idée brillante. Il va utiliser les souterrains qui sont creusés sous les villes pour cacher les émeutes. Alors pourquoi les souterrains sont cachés sous les villes?
Ça, c'est une bonne question.
Il y a des souterrains sous toutes les villes australiennes.
Sauf Brisbane,
pour une raison qui m'échappe encore. Et faut revenir au gouvernement en place, hein, qui avait les réponses les plus mauvaises et les plus ridicules à chaque petit problème. Et c'était une tentative de chasser les taupes, car le président australien avait des taupes dans son jardin. Et il s'est dit, si on fait construire des souterrains, les taupes seront gênées par le bruit, par la circulation, et n'auront plus beaucoup de place sous terre pour habiter. Ce qui est encore une fois ridicule, parce qu'il y avait beaucoup de place.
Ce qui est ridicule, c'est qu'il n'y a pas de taupes en Australie. Il avait confondu une taupe avec un rat. Et donc les rats ne vivent pas sous terre.
Et au contraire, ils bénéficient beaucoup des souterrains. Donc, encore une fois, une réponse ridicule de la part du président en place. Toujours est-il que pour Peter-Emmanuel Marc, c'est une opportunité en or d'utiliser ce souterrain pour sa société.
D'autant plus que les rats cohabitent très bien avec les émeutes.
Mais oui, les émeutes sont tellement sympathiques, forcément.
Il y a une symbiose entre le rat et l'émeu. Petite parenthèse, hein. C'est vrai que c'est cocasse. L'émeu, dépourvu de bras, ne peut pas se gratter le dos.
Il y a beaucoup de poussière en Australie.
Et il y a beaucoup de poussière en Australie.
En particulier dans les souterrains.
Dans les souterrains, ça gratte. L'émeu s'acclimate mal au début, mais le rat est là pour venir manger les petites peaux mortes sur le dos des émeutes.
Donc finalement, tout ça... fonctionne comme un alignement de planètes. Tout est pour le mieux pour la soupe.
Et les sociétés organisées unanimes pour les émeutes.
Écoutez Julien, vous pouvez ne pas dire la soupe, mais laissez-nous le luxe de... Voilà,
de le permettre.
Oui. Oui. Bon. Et donc les souterrains permettent à la société organisée unanime pour les émeutes de frapper un peu n'importe où, puisque finalement ça relie tous les endroits dans toutes les villes. Et donc, ils peuvent faire des attaques éclairs, surgir à un endroit et réapparaître à un autre. Les émeutes se déplacent à grande vitesse. Et donc, Peter-Emmanuel Marc et ses troupes se déplacent à dos d'émeutes et font commettre des attentats pour essayer de bouleverser le pouvoir en place.
Donc là, on a, outre une symbiose rat-émeu, on a aussi la symbiose émeu-humain.
Oui.
Qui participe grandement à l'évolution de cette guerre civile. Combien de temps est dure cette guerre civile?
3 semaines.
3 semaines, pas plus.
3 semaines. Comme le disait Julien, c'est l'émeu, et notamment le monter sur un émeu permet à la soupe de se déplacer à grande vitesse et de faire des frappes éclairs. Et donc tous les points stratégiques du gouvernement et de l'armée vont être mis à mal très rapidement. On coupe toutes les... Bon, après, je ne suis pas tacticien militaire, hein, mais je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails. Je ne sais pas si c'est l'intérêt de notre émission. Mais en tout cas, il se trouve que tous les réseaux d'approvisionnement en armes...
les réseaux de communication aussi.
Les réseaux de communication aussi, effectivement. Mmh. Les antennes... les antennes téléphonie, tout ce qui est attrait à la téléphonie est coupé très vite, et donc toute cette grosse structure et cette grosse administration qu'est l'armée et le gouvernement tombe assez rapidement.
Les civils et de toute façon les civils et les émeus étaient en surnombre grandement.
Oui, tout à fait. Et puis, c'est vrai que eux, leur système de communication par les souterrains leur permet de continuer d'élaborer leurs plans et de réussir à terminer cette guerre civile en beauté. D'ailleurs, Peter Emmanuel Mark devient réellement un héros de cette guerre civile et les civils lui donneront plus tard le nom de Peter Emmanuel Mark.
Emmanuel.
Pour marquer le fait qu'il ait sauvé les émeus.
Et il sera élu président aussi par la suite, ouais. Aux élections suivantes. Mmh. Et bon, alors, il y a eu des faits marquants aussi dans cette guerre. Hein. Donc forcément, il se déplaçait par le réseau de souterrain. Pourquoi l'armée ne contrôlait pas ce réseau de souterrain, me direz-vous ? Et ben, Ils ont essayé. On pense à la ville de Force, sur la côte est. Dans laquelle l'armée a placé des charges explosives dans les souterrains pour les condamner. Ce faisant, la ville de Force s'est effondrée sur elle-même. Donc une ville de 500 000 habitants a été détruite complètement du jour au lendemain parce que l'armée a fait exploser les souterrains sur lesquels reposait la ville. Et aujourd'hui, ce sont des décombres qui sont l'illustration et la marque de cette guerre.
J'en rajoute aussi donc 3 semaines pour prendre le contrôle du pays de la part des civils, à l'exception de la ville de Brisbane. Effectivement, vu qu'elle n'a pas de souterrain, impossible de prendre d'assaut les points stratégiques. Ville de Brisbane qui sera séparée de l'Australie pendant un petit moment. Le gouvernement ira se retrancher là-bas avec l'armée. Et continuera de vivre en autonomie, région autonome d'Australie pendant près de 20 ans, avant de finalement re-rentrer dans l'Australie, avec un mea culpa. Ils ont fait ériger, d'ailleurs c'est pour ça qu'on retrouve dans la ville de Brisbane une grande statue de bronze d'émeu, qui est symbole de paix, en fait, pour que le gouvernement réintègre... et l'armée réintègre l'Australie.
C'est d'ailleurs amusant parce que la ville de Brisbane, du coup, échappera complètement à la Seconde Guerre mondiale à la différence de l'Australie, puisqu'elle était un État autonome à cette époque.
Alors, avant de clôturer cette émission, on peut peut-être faire un petit focus sur le côté émeu de cette guerre. Est-ce qu'on a eu vraiment un émeu ou des émeus marquants qui apparaissent aujourd'hui dans les livres d'histoire?
Ah oui, on pense tous à l'émeu qui a marqué cette guerre et qui a marqué nos cœurs. Hein. C'était Mumu, l'émeu de...
Miu Miu.
J'ai un peu avec l'accent. C'était l'émeu de compagnie de Pierre-Emmanuel Marc. Pierre-Emmanuel Marc. et voilà, qui a eu la Légion d'honneur, enfin l'équivalent de la Légion d'honneur en Australie pour ses services rendus à la nation pendant la guerre. Qui a mené des troupes d'émeu à travers la ville de Sydney.
Qui est devenu président de la soupe.
Qui est devenu président de la société organisée unanime pour les émeus et qui a eu sa place d'honneur au gouvernement par la suite lorsque Peter Emmanuel Mark a été élu président. Et alors, moi, mes followers le savent, j'ai moi-même un émeu. Et que j'ai appelé Mumu en hommage à cet émeu.
On n'en a jamais parlé, c'est vrai, mais c'était une porte ouverte. On enfonce ça une porte ouverte.
Hein, c'est évident. Enfin, c'est quand on connaît l'histoire.
Oui.
Et alors, voilà, un superbe animal.
Un superbe animal, certes, vos followers le savent, mais peut-être pas tous les auditeurs et auditrices de la radio. Ça fait quoi de vivre avec un émeu?
C'est du bonheur au quotidien. Imaginez rentrer chez vous et voyez le plumage de cet oiseau majestueux qui, qui vous regarde depuis son petit panier.
Ouais, j'ai quand même appris que c'était un petit peu têtu quand même comme animal.
C'est un peu têtu, mais...
Quand on va prendre l'apéro chez Julien, faut faire attention à son bol de cacahuètes. Hein. Et on a beau dire stop, Mumu.
Bah, il est gourmand.
On peut se le faire picorer assez vite. Hein.
Il est gourmand, mais bon, bah, ouais, on a chacun notre petit caractère, mais il les aime aussi.
Pour clôturer l'émission, un petit tour de table pour auditeurs et auditrices qui voudraient creuser le sujet. Est-ce que vous avez des livres, des œuvres, des films, des musiques à recommander sur cette guerre des émeux?
Oui, moi je voudrais attirer l'attention sur les courses d'émeux qui sont dirigées par le PME. C'est vraiment... aujourd'hui sous-coté hein, les courses d'émeux, alors qu'ils adorent cette discipline. Je pense qu'il faut les soutenir.
Soutenez les courses d'émeux.
Moi, je suis allé voir récemment le chanteur M en concert. C'était vraiment un super spectacle au Zénith de Paris. Enfin, voilà, un musicien de talent. Et puis surtout, les musiciens et musiciennes avec qui il se produit sur scène sont très impressionnants. Donc, je vous recommanderais d'aller voir en concert le chanteur M, Mathieu Chédid.
Quel rapport avec les émeux?
Il n'y en a pas vraiment, mais ça m'a fait penser à la lettre M, ME. C'est...
Aucun rapport, merci, ce sera le mot de la fin. Merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. C'était l'Histoire avec un grand I pour un épisode aujourd'hui consacré à la guerre des émeux. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'Histoire avec un grand I. Et rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
C'était l'Histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'Histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.